Vous écoutez l'écho du Félipé, 19e édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Félipé 2021. Agriculture, préserver le vivant. Une table ronde avec Clément Doche, Jacques Capla, Marc-André Sellos et Xavier Poux. Animée par Françoise Vernet et en partenariat avec Actes Sud.
Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, nous allons avoir une table ronde autour d'un sujet qui est l'agriculture, préserver le vivant. Autour de moi, une majorité masculine. À ma gauche, Marc-André Sellos. Professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, auteur notamment de L'Origine du Monde, si je ne dis pas de bêtises, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent, et puis un ouvrage qui était sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Jamais seul, qui est désormais disponible en poche. À ma droite, Xavier Poux, ingénieur agronome et docteur en économie rurale, co-auteur du livre « Demain, une Europe agroécologique », Se nourrir sans pesticides, faire revivre la biodiversité, paru chez Actes Sud en septembre. À sa droite, Clément Doche, qui est jardinier formateur à Terre et Humanisme et qui est contributeur du livre qui est le manuel de la litière forestière fermentée qui vient de sortir aux éditions du Rouergue. Et à sa droite, Jacques Capla, agronome et ethnologue, co-auteur notamment du livre « Une agriculture qui répare la planète, les promesses de l'agriculture biologique régénérative » qui doit être ici. Voilà. Merci à tous d'être ici avec nous. Pour commencer assez rapidement sur le sujet de l'agriculture, j'aimerais notamment Jacques et Xavier que vous nous fassiez un petit bilan du modèle agricole actuel, le modèle agricole dominant, qui, l'on sait, n'est pas tout à fait, on va dire, la bonne réponse aux enjeux à la fois climatiques, à la fois sociaux, à la fois sociétaux.
Comme tu me regardes, j'en déduis que je commence, puisque tu avais donné 2 noms, mais bon, il faut bien qu'il y en ait un qui se lance. Et je profite, puisqu'on est dans le tour de présentation, que j'ai un autre bouquin qui vient de sortir la semaine dernière, qui est une bande dessinée dont j'ai fait le scénario, qui s'appelle « Demain dans la Terre ». Donc demain, en 2 mots, dans la Terre, qui est une vraie histoire bande dessinée, une vraie fiction, mais avec pas mal de contenu pédagogique, agricole derrière. Et donc, cette agriculture, d'ailleurs typiquement dans cette BD, c'est quelqu'un qui change, qui sort du modèle conventionnel. Et moi, pour dire rapidement, parce qu'on pourrait passer des heures à la définir, et malheureusement, on la définit pas assez parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin. Pour moi, ce qui est vraiment très important avant tout débat sur l'agriculture, c'est de prendre conscience que, pour être un peu brutal, l'agriculture n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculture n'existe pas au singulier. Il y a des agricultures. Elle a été inventée entre 15 et 30 fois à travers le monde, dont certaines liées, mais certaines, on sait qu'elles ne sont pas liées du tout. L'invention de l'agriculture en Mésoamérique, elle n'a aucun lien avec celle de l'Afrique ou de l'Asie. Et ces différentes formes d'agriculture qui ont été inventées étaient basées sur des méthodes agronomiques ou sur des visions du monde qui pouvaient être différentes. Et l'agriculture qui domine le monde aujourd'hui, qu'on appelle l'agriculture conventionnelle parce qu'elle fait convention dans les institutions, c'est une agriculture qui est issue de celle qui est née au croissant fertile, c'est Liban, Syrie, Irak actuel, et qui a gagné l'Europe, puis à partir de l'Europe a gagné le monde au fil des conquêtes hélas fréquente de la part de l'Europe entre le 16e, le 19e et le 20e siècle. Et cette agriculture conventionnelle, donc, qui fait convention, comme ça je commence pas à parler de chimie, d'intensif, d'industriel et tout ça, parce que c'est très discutable, elle l'est ou elle l'est pas, c'est pas forcément si simple que ça, elle est basée fondamentalement sur une approche agronomique qui est héritée du réductionnisme, héritée de la pensée d'Aristote et de la Grèce antique, où en fait... Pour résumer, je dirais, le réductionnisme, c'est on réduit le monde à des explications simples, à des modèles simples, ce qui est utile en termes de travail, mais qui est dangereux quand on confond le modèle et la réalité. Et typiquement, on va raisonner action-réaction, un problème, une solution. On va réduire les problèmes à quelques paramètres qu'on peut étudier séparément. Là où une approche holistique ou systémique va étudier les liens entre les paramètres. Et typiquement, en agriculture conventionnelle, on va nous dire, un sujet du sol qu'on va aborder, je pense, on va se dire, puisque dans le sol, les éléments minéraux dont ont besoin les plantes ne sont pas directement, naturellement libres sous forme minérale, ils sont liés à l'humus, liés à des molécules carbonées. Et pour que les plantes les absorbent, c'est compliqué, il faut que les bactéries les libèrent, tout ça. Alors, ce sera plus simple. On va amener directement des éléments minéraux solubles aux plantes sous forme d'engrais solubles. Le problème des engrais solubles, ce n'est pas qu'ils soient chimiques, c'est qu'ils sont solubles, minéraux solubles. Et en fait, en faisant cette approche, en se disant, ben tiens, les plantes ont besoin d'azote, j'apporte de l'azote, les plantes ont besoin de phosphore, j'apporte du phosphore, ben, en fait, en faisant ça, on déstabilise complètement les équilibres du sol, on fait que les plantes ont des éléments minéraux en continu, même quand elles n'en ont pas besoin, qu'elles absorbent, parce qu'une bonne partie de l'absorption est passive, et donc elles se retrouvent, par exemple, s'il y a un coup de froid et que la plante est au ralenti, que le sol est au ralenti aussi, mais les éléments minéraux sont là, puisque les agriculteurs les ont apportés, donc la plante les absorbe, et on se retrouve avec une plante évidemment fragile, parce que gorgée d'éléments minéraux qu'elle ne transforme pas, puisqu'elle a ralenti sa photosynthèse. Et donc c'est une porte d'entrée évidemment pour les maladies, etc., qui vont se servir. Hein. S'il y a des éléments minéraux disponibles non transformés, ils viennent les prendre. Hein. Et donc c'est toute cette logique-là, finalement, dans l'agriculture conventionnelle, où on va raisonner un champ de blé, il n'y a que du blé, donc on va raisonner blé, c'est tout, on ne va pas penser à autre chose. On va toujours mettre les choses en petites cases. Les arbres, il y a moins de rendement sous les arbres, donc on va couper les arbres, sans se soucier de savoir qu'il y a plus de rendement à côté quand il y a des arbres plus loin. Enfin, voilà, tout un tas d'éléments de mode de pensée. Et finalement, l'enjeu, c'est de sortir de ce mode de pensée. Alors, les humains aussi sont victimes de ça. Hein. Cette approche a conduit à contribuer considérablement à l'effet de serre, contribuer considérablement à l'effondrement de la biodiversité, contribuer à la faim dans le monde, en prétendant la résoudre. L'enjeu agricole, c'est pas chimie ou pas chimie, même si, de mon point de vue, la chimie, de facto, est totalement liée à la démarche conventionnelle et doit être évitée. Mais la question, c'est en amont de ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on raisonne l'agronomie autrement. Et derrière, après, on peut trouver les noms qu'on veut. Mais l'important, c'est de changer la méthode de penser l'agriculture, en fait.
Xavier, si tu veux bien compléter, peut-être un... Là, on a vu la partie plus historique, mais concrètement, quel héritage nous laisse cette agriculture ?
Oui, alors, moi, je dirais quand même que la chimie me semble un problème en tant que tel, et les niveaux d'intrants, parce qu'ils renvoient quand même à tous les impacts environnementaux qu'on connaît, que ce soit dans les eaux, dans les sols, dans l'air. Hein, je pense que le thème de la pollution de l'air, sous plein de formes, est un thème qui est en train d'augmenter. Donc, sur l'altération des ressources naturelles, ça, c'est un héritage. Bon, mais c'est peut-être pas la peine, dans cette audience-là, d'en rajouter de trop, parce que je pense que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous partez de cela. Donc, on va peut-être pas trop en rajouter là-dessus. Sur le climat, on pourra peut-être en parler, mais ça prendra un peu de temps. Moi, quelque chose qui me... Il y a deux idées qui me semblent importantes. C'est que, nous, dans cette salle, je simplifie, je pense qu'on est tous convaincus des enjeux et des problèmes qui sont associés au développement de cette agriculture conventionnelle. Mais je pense que si on se place dans une période historique moyennement longue, on connaît tous les développements qui ont lieu depuis l'après-guerre, depuis les années 50. Et à cette époque-là, entre les années 50, je dirais jusqu'aux années 90, ça semblait un miracle pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et si ça fait convention, c'est que les gains de productivité qui ont été faits ont permis la constitution de groupes industriels, de nourrir mal peut-être, mais à pas cher, toute une partie de la population, etc. Ce qui fait que dans le schéma mental et l'imaginaire de beaucoup de personnes qui sont encore en commande aujourd'hui en matière de choix de politique agricole, eh bien, ce modèle, il s'impose quand même. Et quand on propose une alternative, ben, c'est un petit peu ce qu'on défend dans le bouquin, mais il faut quand même faire ses preuves. Et la charge de la preuve, elle est plutôt à faire du côté de ceux qui défendent autre chose que ceux qui défendent l'agriculture conventionnelle. Donc ça, c'est la première idée qui me semble importante, de comprendre que politiquement, sociologiquement, et même dans les formations, etc., bien, tout ce qui s'est passé dans les années 50, 60, 90, ça reste très prégnant dans l'esprit de beaucoup de personne, à commencer par notre ministre de l'Agriculture qui pourrait avoir 90 ans. Je pense que lui, il voit tout de suite que ça continue comme ça. La deuxième idée qui me semble importante, c'est que dans cet héritage, la vision classique, et elle est juste, hein, c'est que l'agriculture externalise tous ses impacts. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup, mais on va avoir des algues vertes, on va avoir des pollutions de sol, on va avoir des pollutions d'eau douce, on va avoir des problèmes d'air, etc. Et donc c'est un problème qui n'est pas celui de l'agriculture. Et ce qui me semble significatif, c'est que depuis, alors on commence par là dans le bouquin, c'est la courbe du rendement, la courbe d'évolution du rendement du blé depuis les années 1850. Et ce qu'on voit, c'est que, si j'ai parlé des années 90, c'est que depuis les années 2000, en gros, les rendements du blé, ils stagnent. et ils commencent à faire du yo-yo. Alors, il y a plein de facteurs à ça, il y a plein de problématiques agronomiques à ça, mais la question des sols et du dysfonctionnement des agroécosystèmes peut être un candidat assez plausible pour dire que les problèmes de l'agriculture et de l'écologie de l'agriculture deviennent ceux de l'agriculture proprement dit, si je suis clair. Donc c'est plus un problème externe, ça devient un problème constitutif du dysfonctionnement des agrosystèmes proprement dit. Ça me semble une première idée qui est importante. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une deuxième courbe qui est dans le bouquin, alors elles sont très très difficiles à lire, les courbes, elles sont trop petites, donc il faudra des bonnes lunettes pour les regarder, mais c'est l'évolution des charges au niveau des exploitations agricoles ou des fermes. Et en fait, les agriculteurs dépensent de plus en plus d'argent en intrants chimiques, c'est pour ça que la chimie, c'est aussi un problème économique. Et donc, leur revenu devient tout simplement très faible, voire négatif, sans les aides publiques de la PAC. Et donc, on cherche toujours à compenser ces dysfonctionnements écologiques à coups d'intrants, à coups de semences améliorées, à coups de machinisme, etc. Et ça explique, pour beaucoup, l'érosion même du nombre d'agriculteurs, du nombre d'exploitations, parce qu'il y a des équilibres financiers qui ne se font plus à force de vouloir lutter contre les écosystèmes. Et ça coûte de plus en plus cher et ça cause un problème. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, quand on est dans des enceintes et qu'on parle avec des acteurs du monde conventionnel, quand on leur dit, écoutez, là, vous avez des choses qui déconnent au sein de votre système, il y a 20 ans, je pense que c'était inaudible, maintenant, c'est quelque chose qui peut faire écho. Alors là, pour l'instant, pour beaucoup, on est dans des réponses de type réductionniste, parce que j'ai un problème de pucerons, et bien je vais aller taper à la porte du ministre pour qu'il réautorise les néonicotinoïdes. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes qui sont plus systémiques. Et voilà.
Tu voulais compléter, Marc-André ?
Je voulais juste te dire que l'agriculture conventionnelle nous lègue aussi un autre message qu'il faut bien manipuler, c'est le message d'humilité. C'est un double message d'humilité. D'abord, un message d'humilité par rapport aux exigences de l'actualité, aux exigences de la société. Cette agriculture a été inventée par des héros de l'humanité, et je mesure vraiment mes mots. Ils avaient à gérer le problème de la quantité, et ils l'ont géré. Alors on voit que ça atteint ses limites maintenant, mais ça a été inventé par des gens qui résolvaient le problème à date, et on a pu aujourd'hui des situations comme en Irlande, l'arrivée du milieu de la patate qui va tuer 1 million de personnes et en mettre 2 millions dans des bateaux qui vont arriver en Amérique, où ils peuvent en tout cas. Ça c'est fini. Et donc ça veut dire que chaque fois que l'on résout un problème, on crée les problèmes suivants. Et cette leçon d'humilité, c'est que nous ne devons pas opérer une transition. Nous devons apprendre à évoluer, c'est-à-dire en perpétuellement remettre en cause les choix que nous avons faits et observer en tout cas leurs effets de bord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer d'agriculture. Je rejoins complètement tout ce qui a été dit, je pourrais l'avoir dit, je suis tout à fait d'accord. La deuxième humilité, tu parlais de l'effet sur les pathogènes par exemple, c'est que le monde est complexe. Et ce n'est pas parce qu'on le voit plus complexe aujourd'hui qu'hier qu'on en a encore vu toute la complexité. Effectivement, donner des engrais à une plante, c'est génial parce qu'elle pousse mieux. C'est ce dont elle a besoin quand je la prends comme unité. Mais si jamais je vois qu'elle est la victime de pathogènes, je m'aperçois qu'une plante mieux nourrie est plus victime de pathogènes. Si jamais j'ai compris que ce sont des champignons du sol associés à ses racines qui acheminent la nourriture et qu'elle les congédie quand elle a des engrais parce qu'elle a beaucoup de ressources, eh bien là, je congédie ses partenaires qui lui permettraient de se nourrir de façon autonome demain et surtout, qui ont aussi un rôle phytosanitaire sur les racines. Et puis, dernièrement, cette plante est dans un écosystème et effectivement, quand on met beaucoup d'engrais, ben, y en a qui finissent à la baille. Et ça nous fait les marées brunes des Caraïbes. Je ne parle pas des marées vertes de Bretagne, qui sont des détails. Hein. Les vies sacrifiées, elles sont sur les côtes Caraïbes. Hein. C'est là qu'il faut aller avec les marées d'algues brunes. Voilà. Donc, on a en fait finalement remis une couche de complexité qui est, dans notre vision, je pense, de comprendre qu'il y a des interactions complexes et que les organismes ne sont jamais seuls, disons jamais isolés, tous en lien avec autre chose. Mais il y a sans doute une partie de la complexité qui nous échappe encore. Et je crois qu'il faut aussi garder de l'humilité, ce qui nous fait un deuxième boulet, compte tenu qu'en face de nous, on a éventuellement des gens qui n'ont pas gardé beaucoup d'humilité et qui n'ont pas envie de bouger.
Humilité, humus, l'humanisme, c'est facile. Clément, j'aimerais que tu nous racontes, puisque là, on a fait un constat assez rapide. Je pense que si vous êtes à peu près tous conscients de la finitude du modèle agricole dans lequel on est, dans lequel on est. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de préserver le vivant et donc d'imaginer cette nouvelle agriculture qui existe déjà et tout au moins d'en prendre conscience. Peut-être que tu pourrais nous raconter chez Terre Humanisme comment, avec l'agroécologie, vous préservez le vivant et vous prenez soin justement.
Oui, alors nous à Terre Humanisme, donc c'est une association où on promeut, on sensibilise, on forme le grand public et aussi les paysans qui veulent bien venir nous voir, c'est pas toujours évident, sur des techniques alors on dit innovantes, mais en fait il y a une grande part des techniques qu'on utilise qui sont en fait juste une actualisation des techniques qui étaient utilisées dans l'agriculture avant justement l'ère industrielle de l'agriculture. On n'a pas forcément tout inventé. Et donc l'idée, c'est aussi que les gens remettent les mains dans la terre pour se rendre compte de ce que c'est que de produire un légume. Aussi peut-être pour mieux comprendre le paysan. Alors, on va pas parler d'exploitant agricole, mais plutôt de paysan pour nous. Moi, je trouve aussi que quand on parle de préserver le vivant, faut considérer que le paysan, le fermier, l'exploitant agricole, si on doit utiliser ce terme-là, est aussi à considérer dans le vivant. Et qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui, finalement... ne satisfait plus les paysans, c'est la catégorie socio-professionnelle qui se suicide le plus aujourd'hui. Ils sont souvent pas maîtres de leur système de production, ils sont un peu esclaves de directives, des conseils agricoles, des différentes structures qui les entourent. Donc il y a aussi l'idée de remettre vraiment le paysan au centre du territoire, au centre de nos consommations, et de faire en sorte qu'il se réapproprie son outil de travail qu'il ait un peu plus les mains libres qu'aujourd'hui. Et ça se fera pas non plus sans un échange, une réelle considération entre le consommateur, le citoyen et le paysan. Donc forcément par les actes de consommation, par le fait de remettre les mains dans la terre pour mieux comprendre la condition, le contexte du monde paysan. Et puis après aussi, bien sûr, il y a tout l'engagement politique autour de tout ça pour aussi faire pression pour accompagner un monde agricole qui peine à se transformer aujourd'hui, même si la prise de conscience est quand même de plus en plus largement répandue, j'ai l'impression. Mais la prise de conscience au niveau du citoyen, pour l'instant, elle a encore du mal à se transférer sur les politiques publiques actuelles.
Jacques, tu peux peut-être nous témoigner de ces agricultures qui régénèrent, hein, puisque c'est quand même en gros dans le titre de ton livre. Et donc, peut-être prendre plusieurs exemples de comment, sans rentrer dans les techniques de quelles agricultures, mais en tout cas, comment on arrive à régénérer aujourd'hui le vivant à travers ces agricultures.
Alors, c'est une notion assez vaste, un peu discutable, hein, notion de réparation, de régénération. Mais l'idée, c'était de dire que... on peut aller plus loin que juste arrêter de dégrader. On peut aussi recréer du positif, en fait, par l'acte agricole. Alors, il y a un domaine où c'est plus arrêter de dégrader, c'est le climat. Alors, on peut aussi essayer de réparer en stockant dans le sol du carbone. Mais c'est tout un enjeu, d'ailleurs. Mais pour moi, ça arrive déjà dans un deuxième temps, parce qu'il faut déjà avoir sacrément changé l'approche agricole pour arriver à le faire bien. Mais déjà, il y a un truc qu'on peut faire tout de suite, c'est d'arrêter d'envoyer du protoxyde d'azote massivement dans l'atmosphère par les engrais azotés. On peut arrêter d'envoyer massivement du méthane non compensé par du stockage de prairies par l'élevage industriel. Voilà, y a des choses comme ça où on peut, là déjà, arrêter de dégrader. Et effectivement, après, on peut aller plus loin pour le climat en contribuant à stocker du carbone dans le sol. Faut juste pas rêver, faut pas imaginer que ça compensera les conneries de l'industrie. C'est juste réparer une fois que les autres ont arrêté aussi, ça sera utile, mais sinon ça servira à rien.
Et après, donc si on est concret, ça veut dire arrêter les engrais, plus avoir un élevage intensif, mais avoir plutôt du polyélevage.
Voilà, élevage à l'herbe, c'est très important
parce que de la forêt.
Parce que les élevages à l'herbe, l'herbe restocke une partie, enfin les prairies restockent une partie du carbone et jouent un rôle écologique fondamental de biodiversité. Mais évidemment, faut arrêter l'élevage industriel, ça c'est clair. Et après, il y a une autre dimension qui est celle de la biodiversité, où en fait, et là, ça rejoint d'ailleurs l'idée d'humilité, c'est-à-dire que dans la biodiversité, comme dans les techniques, dans la question de l'autonomie des paysans aussi qui était évoquée, il faut essayer de trouver des méthodes, des démarches en fait, et pas des modèles, et des démarches qui sont ouvertes, c'est-à-dire que on crée une, il faut que ce soit décentralisé, il faut déstandardiser. faut décentraliser. Et typiquement, pour la biodiversité, il ne s'agit pas de dire on va replanter tels arbres massivement à tel endroit. Il faut faire en sorte qu'il... Alors, il faut replanter des arbres aussi, mais il faut aussi faire en sorte que la biodiversité se régénère dans son ensemble, qu'il y ait une dynamique d'auto-régénération qui ne sera pas la même qu'à l'état sauvage. Hein. Un milieu anthropisé, un milieu où il y a des humains, n'est plus un milieu sauvage. Donc, il n'y a plus les mêmes interactions. Ce ne sera pas exactement les mêmes choses. Puis, avec le climat qui change, ça change. Mais donc, il faut redonner une capacité d'évolution. Et ça, typiquement, les techniques que Vandana Shiva utilise en Inde et que des paysans bio utilisent en France en matière de reboiser, effectivement, quand il y a des endroits où il faut reboiser. Bon, en Europe, ce n'est pas tellement ça l'enjeu. C'est surtout arrêter de couper des haies et remettre des haies, ça, oui. C'est avoir une diversité cultivée. Arrêter d'avoir quelques variétés d'une espèce donnée, riz en Inde, blé en France, qui occupe l'essentiel du territoire. C'est quand même terrible de penser qu'en France, où il y a 5%, attends que je ne dis pas de bêtises, non, 10% du territoire français qui est occupé par du blé, et dans ce territoire, dans cette partie-là, du territoire français dans son ensemble, hein, et dans cette surface-là, 60 à 70% sont occupés par quelques variétés. Donc on a plus de 5% de l'ensemble du territoire français qui est totalement monotone en termes de biodiversité, qui a plus aucune biodiversité. Donc changer, remettre une diversité également cultivée, ça restimule derrière la biodiversité sauvage. Et donc c'est ce genre de démarche, en fait, où par l'acte agricole on va recréer un espace pour le monde sauvage, en fait. Et après, ben, faut aussi laisser le monde sauvage évoluer, quoi. C'est pas à nous de tout maîtriser. Effectivement, je rejoins l'importance de l'humilité. Après, bon, je sais pas, il y aurait plein de choses à dire, mais je sais pas, déjà quelques éléments.
Xavier, tu parles pas mal d'élevage dans ton bouquin. J'aimerais bien que tu, parce que c'est quand même une vraie question, on n'arrête pas de nous expliquer que voilà, le vrai véritable enjeu, il est quand même dans l'assiette du consommateur de ce point de vue-là, et qu'il faut qu'on arrête de manger autant de viande. Alors les jeunes sont très enclins à arrêter ça, mais pour avoir animé un débat sur le soja, il faut pas non plus manger que du soja, à tout point de vue d'ailleurs.
Alors, ça va, je vais rebondir sur ce que vient de dire Jacques Caplat. Avec cette idée de la biodiversité, il y a aussi une composante qui est essentielle, qui est, tu l'as un petit peu évoqué, mais très rapidement, la biodiversité des prairies en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en Europe, on a une caractéristique qui est une coévolution depuis des milliers d'années entre des formes d'élevage extensif et le développement d'une biodiversité des prairies. Et donc, en gros, c'est l'élevage fait par les hommes qui remplace les grands herbivores. Donc, pour simplifier, on a remplacé les aurochs et les bisons par des vaches. Et on a un régime de perturbation qui explique une diversité floristrique. Et donc, derrière tous les cortèges d'insectes, et derrière les insectes, tous les cortèges d'oiseaux, etc. Donc la composante prairiale extensive dans les agroécosystèmes pour comprendre la biodiversité est absolument centrale. Et donc ce qui est absolument aussi essentiel à comprendre, c'est cette complémentarité. Comme l'a dit Jacques, c'est pas le réductionnisme, c'est pas de dire je vais maximiser la biodiversité dans les haies ou maximiser la biodiversité dans les prairies ou maximiser la biodiversité dans les cultures. En fait, c'est bien un continuum qu'on a et des complémentarités par des transferts de fertilité. Il faut sortir de l'azote des prairies pour les appauvrir un petit peu pour qu'il y ait une diversité floristique, qu'il y ait des insectes, etc. Donc, ça pose cette question de la complémentarité et du coup, celle de la place et du type d'élevage dont on a besoin. Et dans notre analyse sur quelle est la base du bouquin, le point de départ, c'est une forme de modélisation qui a toutes les vertus et toutes les limites de la modélisation, mais on cherchait à répondre à la question, et qu'est-ce qui se passerait si on généralisait une agriculture, sans intrants de synthèse, donc qui serait une forme d'agriculture, enfin qui est l'agriculture biologique, et deux, qui serait fondée fondamentalement, pour le dire vite, sur cette complémentarité entre des formes d'élevage extensif et des cultures qui bénéficient au mieux des transferts de fertilité entre cet élevage et les cultures. Donc tirer parti, par exemple, de tout le stock d'azote qui est naturellement présent dans les pâturages permanents semi-naturels. Et donc, dans cette entreprise de modélisation, on a essayé de quantifier quels seraient les rendements, etc. Et on arrive à deux conclusions. C'est que, c'est possible de nourrir l'Europe, la population européenne à 2050, en adoptant une agriculture qui a des rendements qui sont plus faibles que ceux qu'on a aujourd'hui, modulo un changement de régime alimentaire. Donc il faut faire coïncider le régime alimentaire européen par rapport aux capacités de production, on va dire, naturelles, avec, je mets des gros guillemets, parce qu'on comprend que c'est quand même des formes d'agriculture. Et donc ce que le modèle, ce que la modélisation nous amène à penser, c'est cette relation entre des formes d'agriculture au niveau des champs cultivés et d'élevage. Et on arrive à un équilibre où c'est ni, évidemment, tous les excès d'élevage industriel qui, en gros, est excédentaire par rapport à toute la capacité de production. Un chiffre, pour nourrir les animaux qui sont dans ces élevages industriels, il faut importer l'équivalent d'un cinquième, 20% de la surface agricole européenne sous forme de soja. Ce qui fait que, contrairement à l'image que beaucoup de personnes ont, l'Europe n'est pas un pays, une zone du monde où on produit beaucoup pour exporter sur le reste du monde. L'Europe est importatrice nette de calories au niveau mondial. On est déficitaire à hauteur de 90% à peu près de nos, on importe l'équivalent de 10% pardon de nos calories. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc il faut évidemment se débarrasser de tout cet élevage excédentaire, mais si on veut garder un équilibre à la fois en termes de biodiversité et de culture, il faut garder une fraction d'élevage extensif qui va jouer pleinement cette complémentarité. Donc notre discours est un petit peu entre les deux. C'est ni c'est une forme d'équilibre, ni plus du tout d'élevage, et évidemment deux fois moins de consommation de produits tirés de l'élevage dans notre ration alimentaire. Alors ça tombe bien parce que cette réduction par moitié, c'est à peu près ce que les médecins disent comme étant tout à fait favorable par rapport à notre santé, d'un strict point de vue quantitatif si on regarde les protéines, et puis si on regarde tous les bienfaits qui sont liés. La viande ne va pas avoir les mêmes qualités. Si on n'a plus de pesticides, c'est quand même pas tout à fait rien. Les impacts sur notre santé aussi se retrouvent tout à fait... c'est beaucoup mieux, quoi, en clair.
C'est des modèles agricoles qui demandent également aux citoyens un certain nombre d'efforts quand on voit les déchets. Enfin, c'est tout ce qu'on jette aujourd'hui, je me souviens de We Feed the World, où il y avait tout ce qui était jeté à Vienne sur le pain, voilà. Ça veut dire aussi cuisiner, arrêter d'acheter des plats tout préparés. Enfin voilà, sortons un tout petit peu du cerveau gauche, il y a aussi tout un comportement citoyen qui doit aussi accompagner cette transition.
Alors, oui, tu as raison de parler de l'évolution. Alors, c'est quelque chose qu'on nous oppose, enfin, souvent en disant « mais vous êtes des... » Je me suis fait traiter de Khmer vert, en disant « vous voulez imposer un modèle alimentaire aux Européens ». Alors, d'abord, j'ai pas vraiment les moyens de l'imposer. Personne n'a vraiment les moyens d'imposer. Mais ce qu'on répond toujours, c'est qu'aujourd'hui, de toute manière, l'alimentation n'est jamais un acte social et politique qui est neutre. Aujourd'hui, on a beaucoup de signaux qui nous disent ce qu'on doit manger ou ce qu'on ne doit pas manger. Donc là, c'est vrai que l'idée, c'est plutôt de penser est-ce qu'on peut orienter ces signaux alimentaires, que ce soit par la publicité, que ce soit par les recommandations nutritionnelles, que ce soit par les prix, vers quelque chose qui permette de corriger tous les impacts environnementaux et sociaux qu'on a. Donc oui, on peut assumer une certaine normativité alimentaire, mais aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où tout se passe magiquement sans aucune contrainte. Donc oui, il y a des contraintes, mais c'est un champ de contraintes contre un autre champ de contraintes. Alors par rapport à l'exemple que tu donnes très concret sur les plats préparés, dans le bouquin, c'est une question qu'on essaye de creuser, elle est difficile, c'est quel serait le modèle alimentaire, pas seulement en termes de calories, mais comme tu le dis, en termes de pratiques très concrètes. Et pour nous, avoir des plats préparés, c'est pas forcément un gros mot, parce que on est dans des sociétés qui sont urbaines et qui resteront urbaines à un horizon de 2050. Et donc, d'avoir des industries qui transforment en partie de l'alimentation, si c'est adapté à la réalité sociale de gens, il faut le faire. Je pense qu'il faut sortir d'un modèle où l'agroécologie, ce serait forcément être dans des AMAP, ne manger que des légumes qu'on a cultivés et de passer 5 heures par jour à les éplucher, à trouver ça super bon, quand on casse les éplucheurs avec de la cendre. Non, c'est pas forcément ça. Je suis un petit peu provoque, mais...
Oui, je suis pas d'accord. Mais voilà. Il y a un enjeu économique aussi, et je pense que voilà, même si malheureusement plus 70% des Français vivent en ville, ça tend à changer. Il y en a qui partent vivre à la campagne, et il y en a une grande partie de gens qui vivent en ville qui n'ont pas les moyens d'acheter des plats préparés. Jacques.
Oui, juste un mot là-dessus. Enfin, je partage la réserve sur l'aspect industriel, mais je comprends aussi. Enfin, faut aussi faire avec la société. Et moi, ça me choque pas qu'on mange des plats préparés. Et juste un truc auquel il faut faire attention, c'est le niveau de transformation, en fait. C'est-à-dire que le plat préparé, c'est pas en soi un problème. Le problème, évidemment, c'est d'abord quel est le modèle économique derrière ça, d'accord, effectivement. On peut avoir une multitude de petites entreprises locales qui font des plats préparés. On n'est pas obligé d'avoir des grandes multinationales concentrées. Et puis, quel est le niveau de transformation, c'est-à-dire de craquage des éléments nutritifs et qui peuvent... Là, pour le coup, il y a quand même de plus en plus d'études qui montrent que ce n'est pas tellement le taux de sucre, de gras, de machin qui pose problème, c'est le niveau de transformation, en fait. Donc, il y a moyen d'avoir des plats préparés, transformés, qui ne sont pas ultra transformés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de plats préparés et transformés, il faut juste qu'ils soient bien conçus. Et par exemple, je vais citer Biocoop, mais ce n'est pas pour faire spécialement de la pub à Biocoop, il y en a sûrement d'autres qui le font, mais il se trouve que là, dans leur cas, je le sais, travaille avec Anthony Fardet de l'INRAE sur le sujet et essaye d'élaborer...
Excellent livre sur halte aux produits transformés.
Voilà, et essaye d'élaborer des plats certes transformés et préparés, mais qui ne soient pas ultra transformés et qui donc ne soient pas un problème pour la santé. Donc on peut toujours trouver des compromis.
Oui, je pense qu'il y a un débat entre transformés et préparés. Parce que le vin, la bière, le pain, c'est des plats qui sont préparés.
Tu ne fais pas ta bière. Marc-André, on a sorti un très bon livre qui s'appelle « Brasser sa bière » sur l'enjeu...
Alors ben oui, il faut. Je pense que pour le coup, comprendre la logique de fonctionnement des sols, c'est quelque chose qui permet de réconcilier l'activité et l'alimentation de l'homme avec une part d'animal. Bon, donc effectivement, c'est 15-25 kilos par personne et par an, les recommandations de l'OMS. On est à 100 en moyenne en France et à 150 aux États-Unis, donc il y a de la marge. Hein. Et pour ce 15 à 25 là, il y a des logiques de sols qui finalement, en quelque sorte, les exigent. Alors, je vais prendre deux exemples. Il y a les sols où on ne peut pas faire d'agriculture sans les soumettre à un bouleversement de biodiversité catastrophique et à des taux d'intrants qui auraient des effets de serre monumentaux. Je pense, par exemple, aux sols des Landes bretonnes ou des Landes d'Écosse. Bon, voilà, ou des Hazas d'Espagne où on lâche des porcs qui mangent sous les chênes. Dans la plupart de ces cas-là, de toute façon, on ne pourrait pas faire de plantes. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de l'animal en extensif. Donc, il y a des sols dont la logique est qu'ils ne sont pas accessibles à la production végétale telle que nous en avons besoin ou nous l'exigeons. Dieu merci, les animaux ont des exigences différentes. L'autre cas de figure, il est résumé dans cette phrase classique que vous connaissez tous parce qu'on l'a appris en cours d'histoire, à défaut de l'avoir dépiauté correctement, à savoir que labourage et pâturage sont les mamelles de la France. Alors, cette phrase est extrêmement intéressante. Parce qu'elle mélange une mauvaise idée et une très bonne idée. On aura peut-être l'occasion d'en reparler du labour, qui est un vrai holocauste, hein, et qui, à la fois en termes de durabilité de la vie du sol, en termes de durabilité du sol et en termes de vie du sol, est un désastre, dans le cas général. Ça mélange un appel au labour, un appel au pâturage, donc à l'animal. Alors tout le monde se dit, bah oui, on va labourer, on va manger des plantes et on va élever des animaux, ils vont pâturer et on va les manger. Non, c'est pas ça. En fait, l'idée, c'est de faire du fumier. Car, on dit tous un peu vite, la formulation est passée tout à l'heure, mais je sais très bien que c'est juste un problème de formulation, qu'il ne faut pas d'engrais. En fait, on n'aime pas trop les engrais minéraux parce qu'ils ont des effets de bord assez inacceptables. Mais quand on récolte, on exporte. Donc on perd de la fertilité. Je vous invite à penser à ça parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui fertilisent avec de la litière forestière et ce n'est pas sympa pour les forêts. Hein ? C'est un vrai problème, ça. Quand on exporte, on emmène de l'azote, on emmène du phosphate et il faut le renouveler. Et ça veut dire qu'il faut le renouveler sous une forme qui va soutenir la vie du sol et les principes qu'on connaît bien. Donc, effectivement, le renouveler sous forme organique. Et donc, on va avoir besoin, effectivement, de déchets. Alors, on a des déchets humains. Je crois qu'on dit que la moitié de l'azote dont a besoin l'agriculture française chaque année se trouve dans nos poubelles humaines, déjà. Mais on a aussi, on aime bien, les déchets animaux. Et puis, il y a une dernière chose, qui est le problème quand on a une terre couverte en permanence, et ça va appeler de l'élevage, même là où on se dit qu'on ferait plutôt de la plante. C'est le problème, avant de semer une espèce cible, avant de semer du blé, avant de semer une fève, si vous avez eu un couvert, vous héritez de plantes qui poussent là. Et comment les retirer? Alors, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez avoir des plantes gélives dans un climat où ça gèle en hiver, elles sont nazes au moment où vous allez semer, c'est bon. Vous pouvez pratiquer le feu ponctuellement, mais enfin, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut pratiquer partout, puis ça détruit de la matière organique, donc c'est pas ce qu'on veut. Vous pouvez aussi utiliser des pesticides. Alors ça, c'est pas trop ce qu'on veut, mais il y a une dernière chose qu'on peut faire et qui marche par exemple très bien en arboriculture ou dans la vigne, c'est d'avoir des animaux qui tondent les couverts. Et voilà encore une complémentarité. Et finalement, ici, on voit très bien que l'agriculture conventionnelle a encore pensé les choses isolément. Où est-ce que je peux faire de l'animal? Où est-ce que je peux faire de la plante? Et nous, aujourd'hui, en essayant de trouver des liens, on s'aperçoit que finalement, il y a des liens, il y a des complémentarités. Elles ne sont pas jouables partout, elles ne sont pas jouables à n'importe quel prix, mais finalement, nos disciplines, elles génèrent des solutions. Parce qu'on est souvent dans le catalogue de ce qui merde, et on sait expliquer pourquoi ça merde. Mais si on prend ces disciplines un petit peu à la base, et c'est vrai aussi pour le climat, on est générateur de solutions. Des solutions par les complémentarités et la réintroduction dans le système de pensée d'un peu de complexité.
Et si on parlait des litières forestières fermentées? Forcément. Tu veux nous raconter cette belle histoire de ce qu'on promeut
Alors, la litière forestière fermentée, c'est pas... Enfin, je sais pas comment tu l'entendais, Marc-André. C'est pas forcément aller chercher de la litière forestière dans la forêt pour l'amener dans ses jardins ou dans ses champs. C'est aller identifier des petites zones où la litière forestière s'est accumulée dans des fossés, au pied de certaines de cailloux dans la forêt, et en prélever vraiment une toute petite part. Et dans cette litière forestière, en fait, elle est habitée par tout un cortège de micro-organismes, des bactéries, des champignons, des levures, des actinomycètes. L'idée, c'est de les faire se reproduire. Peut-être pas à l'infini, mais en tout cas beaucoup, en leur donnant ce qu'elles aiment bien manger. Donc en gros, c'est du sucre et de l'amidon. Donc on fait une espèce de tambouille avec tout ça. Et en fait, on s'appuie sur un concept qu'on connaît dans l'étude des écosystèmes, c'est que plus un milieu est diversifié en termes d'acteurs, et plus il est équilibré. Donc si on a tout un cortège de bactéries toutes très différentes les unes des autres, de champignons tous très différents les uns des autres, on aura quelque chose qui va plus ou moins s'équilibrer, parce qu'il y aura, si on a un qui se développe en excès, il y aura de grandes chances qu'il y ait son antagoniste, donc son prédateur, qui va le contrôler. Et on utilise cette technique-là qui nous vient de Cuba. En tout cas, elle a été développée à Cuba plutôt sur le côté paysan, et elle a été développée plutôt en laboratoire au Japon. On va utiliser cette méthode-là pour, alors, comme un biostimulant pour stimuler les plantes. Alors pas forcément comme un engrais le ferait, mais plus en stimulant leur défense naturelle, en stimulant leur capacité à pousser bien et de manière équilibrée. On peut aussi réveiller un sol, en tout cas l'améliorer peut-être un peu plus vite en mettant cette litière forestière fermentée sur le sol. On a étudié ça avec des plantes bio-indicatrices. Donc les plantes bio-indicatrices, c'est des plantes qui vont pousser selon un état du sol, selon l'état du sol dans lequel il est. Et on a fait des petits tests chez nous. Donc pour l'instant, c'est de manière très très empirique, et on a constaté que on gagnait du temps sur la gradation naturelle d'un sol en y mettant de la litière forestière fermentée. Donc c'est quelque chose qui pourrait être éventuellement utilisé dans l'agriculture, aussi dans l'élevage d'ailleurs. Des éleveurs avec qui on travaille réussissent à réduire par exemple les mouches dans les stabulations grâce à la litière forestière fermentée. On est en pleine recherche de toutes les applications que ça pourrait avoir. Tout ça pour dire qu'en fait, alors on connaît plein de choses. Grosso modo, je pense qu'on sait comment faire évoluer l'agriculture vers quelque chose de plus cohérent, de plus protecteur de nos écosystèmes et de notre santé. Et il y a aussi, peut-être à la marge ou peut-être pas, des choses encore à rechercher, à développer. Donc moi, j'aime bien le concept de paysan-chercheur. Le fait aussi que le paysan se réapproprie la manière dont il va faire évoluer son système. Il n'y a sûrement pas un système qui est reproductible sur chaque ferme, et c'est chaque paysan qui va peut-être devoir rechercher, trouver la technique adaptée à son terroir, à son contexte pédoclimatique. Et ça, c'est super intéressant, ça rend le métier de paysan peut-être plus intéressant que comment on l'a rendu dans les 50, 60, 70 dernières années, où en fait on est juste un peu un esclave de pratiques qu'on n'a pas forcément décidées. Donc voilà, litière forestière va dans ce sens-là peut-être.
Moi, il y a trois choses que j'aime. Un, c'est reprendre le pouvoir sur son métier. Voilà, c'est pas comme je mets l'argent à la banque, je réfléchis pas, je mets ma santé chez le médecin, je réfléchis pas. Bon, voilà. Deuxièmement, c'est que cette technique, elle est économiquement pas chère. Et troisièmement, c'est qu'elle est dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'on est dépendant de personne. Et finalement, à partir du moment où on est capable de la faire, on peut la reproduire, la transmettre, la partager. Bon, voilà, c'était le petit couplet. J'aimerais bien qu'on parle dans les communs qui nous animent et que l'agriculture peut préserver ou détériorer. Il y a l'eau. L'eau est un véritable enjeu. On va en parler dans le Gers mi-décembre au congrès des agriculteurs bio, mais comme on n'aura pas Jacques, je veux bien que tu nous parles de l'eau et de voilà comment aujourd'hui, face à tous les enjeux, que ce soit l'appauvrissement, que ce soit la qualité, que ce soit... Enfin, voilà.
C'est un énorme sujet. Alors, sur la qualité, la question de la qualité, je reprendrai un peu la formule de Xavier tout à l'heure. Je pense que si vous êtes dans la salle, vous devez connaître à peu près l'enjeu. Hein. Le fait que les pesticides, en particulier, se diffusent dans l'eau et pas seulement dans les sols, et qu'il y a un gros problème de présence des pesticides dans l'eau, donc dans l'ensemble des milieux derrière, que l'azote s'accumule. Alors, c'est vrai que les algues vertes en Bretagne sont peut-être moins dramatiques que les marées brunes dans les Antilles, en Caraïbes, mais n'empêche qu'en Bretagne, c'est quand même une catastrophe pour les Bretons. Et donc, il y a des problèmes de qualité directement. Bon, je pense, enfin, on pourra éventuellement en parler après, mais je pense que c'est quelque chose qui est relativement connu maintenant. Sur les algues vertes, je vous recommande une autre bande dessinée d'Inès Leroux qui s'appelle Algues vertes, l'enquête interdite, je crois, le sous-titre ou un truc comme ça. Et sinon, il y a une dimension de l'eau dont on parle de plus en plus et sur laquelle je voudrais dire peut-être un peu plus de choses, c'est la question de la quantité, la gestion de la quantité. Parce qu'on nous dit aujourd'hui énormément qu'il faut irriguer, donc il faut stocker pour irriguer, etc. Alors déjà, il y a un premier problème. C'est que quand on dit ça, on propose un modèle d'agriculture irriguée qui n'est pas généralisable. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en œuvre cette agriculture telle qu'elle est définie par les irrigants français ou en Inde, il faudrait une quantité d'eau qui n'est pas disponible sur Terre. Ça n'est applicable que par 10 à 20% maximum des surfaces agricoles de la planète. Donc de toute façon, déjà à partir de ce modèle-là, c'est une démarche assez odieuse qui consiste à dire « Nous, on est les plus forts, on se sert les premiers et les autres, vous pouvez crever ». Donc déjà, il y a un vrai problème. Après, il y a un autre problème, c'est que d'un point de vue purement agronomique, c'est la plus mauvaise façon de stocker de l'eau, de la mettre dans des bassines, dans des retenues. La meilleure façon de stocker de l'eau, c'est le sol. L'humus peut stocker entre 20 et 30 fois son poids en eau, s'il est correctement constitué et si le sol est suffisamment bien structuré au niveau de sa composition, si on veut, enfin, sa structure, je pense que le terme, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de porosité, d'aération, une tenue du sol qui est telle que l'eau et l'air vont pouvoir circuler dans le sol. Et quand le sol est bien structuré et que l'eau peut donc pénétrer dans le sol, c'est déjà un premier point, c'est de moins en moins le cas dans les sols agricoles aujourd'hui, et si en plus ce sol est riche en matière organique, et donc la matière organique va stocker de l'eau comme une éponge, à ce moment-là, l'eau, elle est stockée dans le sol. L'eau qui tombe en hiver, elle est disponible en été parce qu'elle est déjà là, dans le sol. On n'a pas besoin d'avoir des retenues d'irrigation, des retenues collinaires ou je ne sais pas quoi pour ça. Après, ça n'empêche pas de faire des petites retenues très localisées. Ça n'empêche pas d'irriguer le maraîchage parce que c'est des surfaces pas énormes. Ce n'est pas des volumes énormes et on peut arriver à gérer ça parce que les légumes ont besoin de pas mal d'eau. Bon, voilà, il ne faut jamais être catégorique, mais globalement, il faut essayer de stocker d'abord l'eau dans le sol. Et puis, troisième élément, les plantes doivent apprendre à utiliser l'eau quand elle est là. Le problème aujourd'hui, c'est que depuis 80 ans, on a sélectionné les plantes dans des conditions où elles ont toujours de l'eau. Toutes les parcelles de sélection agricole aujourd'hui, ils ont de l'eau à disposition tout le temps. Donc, ils ne sont jamais confrontés au stress hydrique. C'est un principe d'évolution darwinienne élémentaire. Un organisme qui n'est confronté à aucune pression de sélection sur un paramètre, il n'y a aucune raison qu'il y ait une sélection et qu'il y ait une évolution de cet organisme par rapport à cette question-là, à cette condition-là. Donc forcément, ces plantes ne sont pas capables de faire face au stress hydrique. Alors que si vous sélectionnez des plantes dans des conditions où elles vont avoir des manques d'eau temporaires, elles apprennent à faire avec. Enfin, elles apprennent. disons que le hasard des mutations font qu'il y en a qui s'en sortent mieux, et c'est celles-là qui se reproduisent le plus, c'est celles-là qu'on garde, et au bout de quelques générations, on a fait évoluer les plantes. Et très concrètement, en Dordogne, l'association Agrobio-Périgord a sélectionné des maïs, en plus en mélangeant des lignées de maïs, donc c'est ce qu'on appelle des populations végétales, en situation non irriguée et en bio. Ce sont les maïs qui, après 15 ans en gros de sélection, aujourd'hui, ces maïs sont capables de faire face aux périodes de sécheresse et de canicule aussi. C'est en 2018, 2019, je ne sais plus, là, je perds le temps avec la pandémie, je perds la notion du temps, mais je crois que c'est en 2019 où il y avait une canicule très très forte dans le sud-ouest. Et il y avait des maïsiculteurs qui avaient tout perdu. Et je me souviens notamment d'un maïsiculteur qui avait témoigné dans les médias. Il avait essayé une variété d'Agrobio Périgord. C'est la seule qui n'a pas grillé avec la chaleur. C'est la seule qui a donné une récolte correcte. Donc voilà, on a les moyens. Donc la question de l'eau, c'est comme ça qu'il faut la gérer. C'est surtout pas en mettant des retenues d'eau partout, quoi.
Oui, alors tu oublies quand même que les asperceurs, c'est très pratique parce que ça nettoie les pare-brises. Mais il n'y a plus besoin de les nettoyer parce qu'il n'y a plus d'insectes. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose quand même dont on pourrait parler. Ça sert vraiment à rien. Alors, par ailleurs, deux idées qui sont aussi importantes. On parle toujours de besoin en eau. Quand vous êtes dans des débats sur cette gestion quantitative de l'eau, on veut dire oui, j'entends bien ces arguments, mais quand même, on a besoin d'eau pour produire. Et alors, un autre chiffre, les deux tiers des céréales qu'on produit en Europe, c'est pour nourrir des animaux d'élevage industriel, donc ceux dont on se dit, dont on n'a absolument pas besoin, qui créent des catastrophes sanitaires, écologiques, sociales, etc. Donc, il faut même se poser la question de pourquoi on irrigue, quel est le sens de cette irrigation, pourquoi on fait ce maïs. Et sur la question de l'eau doit retourner au sol parce que c'est la meilleure manière de la garder. Une idée aussi qui est importante, c'est qu'avec le changement climatique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'évaporation, y compris en hiver et au printemps. C'est-à-dire que quand vous faites une bassine d'eau pour irriguer en juin, juillet, août, quand il fera vraiment très chaud, en fait, vous en avez déjà consommé une bonne partie entre février, mars, avril, mai, de plus en plus. Donc, vous êtes obligé de dimensionner vos bassines en intégrant un facteur supplémentaire de perte qui va aller dans l'atmosphère. Donc, vraiment, quand on dit le meilleur moyen de stocker de l'eau, c'est dans le sol et dans le sous-sol pour alimenter les zones humides, les rivières, les hydrosystèmes naturels, c'est vraiment une idée qui est fondamentale.
Et puis, alors, pour remettre de la complexité, parce que c'est, on mange pas que des choses qui viennent de la terre, on mange aussi des choses qui viennent de la mer. Hein. Le fait de laisser sédimenter l'eau dans des barrages, donc la laisser se clarifier finalement par décantation, ça bouche les barrages d'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement ces retenues collinaires posent problème. Ou encore d'ailleurs d'autres, d'utiliser cette eau pour la mettre sur des sols, bah, en fait ça soustrait des apports à la mer. Par exemple, pour le Rhône, on compte que, historiquement, ces 33 millions de tonnes de sédiments qui arrivaient dans le golfe de Gascogne tous les ans, on est tombé à 8 maintenant. Alors vous allez me dire, bon, bah, du coup, l'eau est plus claire à la Grande Motte. Ah oui, mais c'est vrai, elle est plus claire. Mais le problème, c'est que ça nourrit moins de plancton, qui nourrit moins de crustacés. Et en 10 ans, alors il y a plusieurs raisons à ça, mais en 10 ans, les sardines, de 1 an, elles ont perdu les 2/3 de leur masse. Elles sont 2/3 plus petites. Enfin, moins lourde. Donc, il y a un vrai problème là. Quand on a construit le barrage d'Assouan, par exemple, la pêche à la sardine dans le delta du Nil s'est écroulée de 95%. Voilà ce qui se passe quand on empêche l'eau d'aller à la mer. Ça peut faire des choses bien à court terme pour les écosystèmes terrestres, mais c'est la promesse de... Alors, juste une chose aussi, si je peux récapituler tous les morceaux qui traînent à propos de cette matière organique. Sa décomposition lente est une forme de fertilité qui, libérée lentement, ne fuit pas. Puisqu'elle est libérée, l'azote, le phosphate liés à la décomposition par les microbes vont être libérés à une vitesse qui permet la récupération par les racines. Donc, il n'y a pas de fuite, mais c'est un engrais. Mais le temps qu'elle se décompose, et ce temps est d'autant plus lent que cette matière organique est par exemple forestière, parce que là, elle est relativement toxique pour les microbes, donc ça freine les processus, le temps où elle est là, elle est matière organique dans le sol, et elle fait plein de choses. Ça colle, la meilleure image de matière organique, c'est la morve. Ça colle les morceaux. Donc, ça aide à résister contre l'érosion. Donc, ça stabilise les petits trous. Les trous de verre, les trous liés à la mort d'une racine. C'est comme quand on boise une mine. Hein. Ça stabilise ces trous, des trous qui permettent à l'eau de circuler, voire quand ils sont petits, d'être retenus par capillarité. C'est soi-même quelque chose qui retient l'eau. Voilà. Et puis, en plus, ça nourrit des microbes du sol qui ont d'autres rôles. Par exemple, quand ils ont un petit peu faim en phosphate, je sais pas, ben ils vont attaquer des roches et libérer le phosphate de la roche. Donc ça nourrit des microbes qui contribuent à d'autres fonctions du sol. Et puis, une dernière chose, ça stocke du carbone. Et là, il faut dire un mot du 4 pour 1000, parce que là, on commence à voir finalement que remettre de la matière organique dans les sols, ça illustre cette approche de l'écologie qui nous manque terriblement, qui est l'écologie solution et non pas l'écologie Cassandre. Eh bien, ça stocke du carbone et on compte que, en termes de carbone, hein, de poids carbone, si on augmente la quantité de carbone organique dans les sols de 0,4% tous les ans, 4 pour 1000, c'est d'ailleurs le nom de l'initiative qu'avait lancée en ce sens Stéphane Le Foll, qui n'a pas résisté à un changement de gouvernement, puisqu'on n'est pas capable pour l'agriculture d'avoir la même permanence de but qu'on a pour l'armée, par exemple. Ben oui, enfin, il n'y a pas d'un gouvernement à l'autre, on ne change pas d'armée. On change la couleur des drapeaux, mais c'est tout. Et donc, pour revenir à ça, ce 4 pour 1000, c'est l'idée que si on augmente de 4 pour 1000 par an la quantité de carbone stockée dans le sol, dans tous les sols du globe sous forme de matière organique, on a avalé tout le carbone produit par l'humanité cette année-là. Ben, c'est une solution, voilà. Et l'urgence, c'est pas de planter des arbres et d'emmerder nos enfants avec des surfaces qui seront enforestées et qui ne pourront pas couper parce que ce sera nos déchets carbonés. C'est de remettre du carbone dans le sol.
Avant de vous passer la parole dans quelques minutes, moi j'aimerais bien quand même revenir un peu dans la réalité, c'est-à-dire je suis agricultrice dans le Gers en conventionnel, comment je fais, je suis endettée, etc. Comment je fais mon bon monsieur pour y aller ? Ou autre cas de figure, je m'appelle Clément, je veux m'installer comme maraîcher bio en Ardèche. Et bah voilà, j'écoute cette conférence et je suis extrêmement inspirée, mais maintenant le passage à l'acte. Voilà, dans quelle école je vais, comment la politique française agricole m'aide, comment la politique agricole européenne m'aide, voilà, comment les choses concrètement sont faites pour que ce changement de braquet et ce changement de paire de lunettes soient opérés, messieurs.
Je vais essayer quelque chose. Alors la bonne nouvelle, je crois, c'est que l'agroécologie est censée être dans tous les programmes de l'enseignement agricole.
Après, en 2000 combien ?
Non, c'est déjà, je crois que c'est depuis 2019-2018. Après, c'est tellement dépendant des profs, de la direction. Là, nous, on a été faire un accompagnement pour des paysans à Mayotte. La directrice du CFPPA était à fond agroécologie. Donc, ça a bougé pas mal les choses pendant 5 ans. Et là, elle est mutée. Le directeur suivant est pas du tout pour l'agroécologie. Tout ça, ça s'effondre. Donc c'est toujours très dépendant en fait d'une volonté de quelqu'un qui y croit, et pour l'instant en fait ça tient que là-dessus. Tout ce qui avance c'est par des petites initiatives plus ou moins personnelles, et il y a peu ou pas de relais politiques ou en tout cas plus territoriaux sur tout ça. Enfin, s'il y en a quand même, hein, heureusement, il y a quand même des super belles initiatives à droite à gauche, mais pour l'instant c'est pas une ampleur, ça prend pas une ampleur excessive. Après, il y a aussi on n'a pas parlé, mais le problème de l'accès au foncier. Donc aujourd'hui, je suis un maraîcher, je veux m'installer. En tout cas, en Ardèche, je vais avoir les pires terres de l'Ardèche, en fait. Alors que le maraîchage nécessite les meilleures terres. En termes agronomiques, quand même, c'est assez exigeant de faire du légume. Et par exemple, en Ardèche, ben, les meilleures terres sont occupées aujourd'hui par des vignes, qui pourtant, elles, ne nécessitent pas les meilleures terres qui soient, ou par de la céréale, ou des choses comme ça, Donc il y a aussi vraiment, on a tellement spécialisé nos régions et on est parti aussi dans certains délires que aujourd'hui celui qui veut s'installer, ben c'est pas évident s'il a pas une grosse capacité financière. Ça exige souvent des gros endettements. Voilà, donc il n'y a pas un gros effort de fait, je trouve, pour l'installation des jeunes. Et en plus, les anciens, eux, sont surendettés. Et donc ça fait aussi et ont des exploitations qui sont invendables tellement elles sont chères. Donc ça fait vraiment, il y a un gros effort, je pense, actuellement en termes de foncier agricole pour que les choses évoluent.
Sachant que si je ne dis pas de bêtises, il y a 400 000 paysans, agriculteurs, exploitants, chefs d'exploitation en France, et dans 10 ans, ils seront deux fois moins.
Ils ne seront pas forcément deux fois moins, mais en tout cas, il y en a la moitié qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Ouais. Donc espérons justement qu'ils ne seront pas deux fois moins, qu'ils seront remplacés. Mais en fait, par rapport à cette évolution-là, pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, évoluer de l'agriculture conventionnelle avec tous ses dogmes, tout son formatage général, y compris des hommes politiques, effectivement, dont le ministre actuel, vers une autre forme d'agriculture, que moi j'appelle plutôt l'agriculture biologique, mais du moment qu'on va dans la même direction, moi je me braque pas sur les mots, il y en a qui appellent ça agriculture paysanne, agroécologie paysanne pour être plus précis, etc. Mais pour évoluer vers ça, en fait, il faudrait, en théorie, pour pouvoir évoluer à grande échelle, changer le cadre. Parce que c'est vraiment fondamental de comprendre, effectivement, comme tu l'as dit, l'agricultrice du Gers, elle est prise dans un système et elle assure sa rentabilité par rapport à un système qui a donné des règles et qui font que pour être rentable, elle est obligée d'être en agriculture conventionnelle, en fait. En termes de subventions, en termes de marché, en termes de techniques disponibles, etc. Et donc, changer de pratique, c'est pas juste dire aux agriculteurs « débrouillez-vous ». Changer de pratique, c'est la société décide ensemble de changer sa relation à son territoire et d'accompagner les agriculteurs en leur donnant une possibilité de changer de pratique. Le problème, c'est que... c'est une démarche qu'on peut trouver un peu dans l'installation. C'est-à-dire que y a pas mal de dynamiques, des mouvements qui sont regroupés notamment au sein du collectif Impact, qui essayent de mettre ensemble les différents acteurs pour aider à l'installation, donc trouver du foncier, je pense à Terre de Liens, et puis d'autres démarches aussi, sans forcément acheter le foncier collectivement comme avec Terre de Liens, des systèmes d'espace test agricole, des systèmes d'AMAP, qui sont aussi offrir un débouché qui va permettre de sécuriser une autre pratique agricole, etc. Et toutes ces démarches-là, pour quelqu'un qui s'installe, il peut y avoir un accompagnement. Je ne dis pas que c'est facile, mais il peut y avoir, en tout cas, il commence à y avoir un réflexe de travail conjoint entre les projets d'installation et l'ensemble des citoyens. Et on arrête cette sclérose du monde agricole tout seul dans son coin. Par contre, pour les gens qui sont déjà paysans et qui veulent évoluer, c'est beaucoup plus dur. Parce que changer de pratique comme ça, ex nihilo, c'est pas simple. Il faut souvent un déterminant, un incident sanitaire, un incident environnemental, quelqu'un de la famille qui dit « moi, si tu ne changes pas, je me casse ». C'est vrai, hein, ça a été un des facteurs de conversion en bio. Hein. C'est ce genre de choses. Et donc, ça montre bien qu'il y a un vrai manque de volonté politique derrière. C'est-à-dire qu'il faut aller contre le cadre pour changer. Quoi. On n'est pas accompagné, en fait. Et typiquement, tu évoquais les formations. Un truc très intéressant que disait un directeur de lycée agricole il y a 2-3 ans, il disait oui, maintenant l'agroécologie est au programme obligatoirement. Donc on ouvre toute une panel de compréhension des sujets agricoles. Et c'est vrai, moi j'ai pu voir la différence, j'interviens depuis 10-15 ans dans des lycées agricoles, je vois quand même une évolution. Mais il rajoutait, le problème c'est qu'on offre un panel, on ne doit pas choisir à l'intérieur de ce panel, on offre toutes les possibilités. Or Edgar Pisani, à propos des gens qui vraiment sincèrement ont voulu changer, ont construit le modèle agricole en pensant sincèrement bien faire. Et ensuite, Edgar Pisani l'a regretté d'ailleurs. Mais il était sincère. Quand Edgar Pisani a fait la révolution silencieuse dans les années 60, quand il était ministre de l'Agriculture de De Gaulle, c'était pas une option. C'était tout le monde va dans le même sens. L'enseignement, le machinisme, l'organisation sociétaire, les syndicats, etc. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et je rajoute un aspect, parce que je suis aussi anthropologue, et un truc qui me frappe et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la transmission des savoirs, ou la transmission d'une culture plus globalement, se fait pas tant qu'on le croit de façon verticale. C'est-à-dire, c'est pas autant qu'on le croit d'un maître à un élève. Une grande partie de la culture se transmet entre pairs, à niveau égal. Typiquement, il y a une étude qui a montré que les comptines enfantines ne sont pas enseignées par les parents aux enfants, mais par les enfants un peu plus âgés aux enfants un peu plus jeunes. Et typiquement, l'enseignement agricole, il ne faut pas perdre ça de vue, dans les lycées agricoles, enfin, ceux qui connaissent un peu ce milieu le savent, la culture, elle ne se transmet pas en classe, puisqu'en classe, on est censé écouter le prof et pas parler. La culture, elle se transmet dans la cour de récré. Et qui sont les caïds de cour de récré? Les fils de gros paysans. Et je dis bien les fils, c'est rarement des filles. Donc là, il y a une inertie culturelle. Il ne suffit pas de dire on va enseigner l'agroécologie si derrière, on ne pose pas la question de la culture agricole générale.
Oui, puis c'est une transition qui a un coût sociétal, un coût sociétal à la fois effectivement, idéalement, d'accompagnement, bon, et puis de recherche, parce qu'en fait, toutes ces bonnes solutions qu'on a agitées ne sont pas valables. On ne peut pas croire au terroir sans penser qu'il y a des déclinaisons différentes par territoire. Donc, il faut vraiment étudier où et quand on fait quoi, ce que d'ailleurs ce qui a été fait dans l'agriculture conventionnelle. Il y a quand même des listes de recettes, c'est devenu du pouce-bouton. Hein. Et sans passer jusqu'au pouce-bouton, il faut quand même qu'on sache comment décliner les bonnes idées endroit par endroit, culture par culture. Il faut de la recherche, il faut donc de l'argent. Et là, il y a un piège devant nous. Et dans cette salle, je pense qu'on ne le voit pas, ce piège. Parce que nous, on est tous convaincus, enfin je pense, pour élever le doigt si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais on est convaincus qu'il faut que ça change. Et on est exactement comme une poignée d'ingénieurs, et vous allez détester la comparaison, j'en suis sûr, d'ingénieurs de l'industrie atomique dans les années 70 qui dit « il faut l'atome pour ce pays ». Ils sont tous d'accord. Sauf qu'à un moment, les citoyens se réveillent et ils disent « ah ben nous, c'est pas ce qu'on voulait ». Et faire ça sans les citoyens, qui sont les consommateurs et qui ont le principal outil d'exploitation du sol que vous avez d'ailleurs peut-être, hein, le principal outil d'exploitation du sol et de l'agriculture, c'est ça. C'est la carte bleue qui justifie la production. Bon, ben, qui porte des cartes bleues ? Les agriculteurs en ont, mais tout le monde en a. Et donc, il faut vraiment faire ça avec les gens. Merci. Il faut faire ça avec les gens et pour ça, il faut leur redonner les clés du monde. Bon, moi, c'est vraiment mon combat. On a mis dans le programme de la dernière année où les sciences de la vie et de la Terre sont obligatoires au lycée, puisqu'il n'y en a plus maintenant en première et en terminale. Hein. C'est une option. La santé et l'environnement sont les options. Mais en seconde, il y a l'agriculture actuelle, les problèmes qu'elle pose, les pistes de solutions. Alors, on est moins normatif, désolé. Et on recommande une excursion en exploitation. En seconde générale. Bon. Au muséum, par exemple, on a une exposition, là, en ce moment, l'Odyssée sensorielle, où on plonge les gens dans des écosystèmes sans un mot, mais avec du bruit, de l'odeur, des images. Et il y a une salle sur le sol, en particulier. Moi, j'ai beaucoup œuvré à ce que les gens réalisent ce qui se passe dans le sol et que c'est vivant. Et quand on a réalisé ça, après, ben, la piste est ouverte. À la sortie, il y a des débriefings, des podcasts, des choses comme ça, pour que les gens aillent plus loin. Mais l'idée, c'est de faire réaliser à tout le monde quels sont les enjeux, quelle est cette complexité, pour que demain, éventuellement, des citoyens acceptent de payer la différence. Qui n'est d'ailleurs pas une différence tellement énorme à long terme si on regarde les coûts sur la santé, mais qui est une différence quand vous achetez votre kilo de carottes, ça c'est sûr.
Xavier, puis après on passera la parole à la salle.
Oui, alors pour rapporter de la complexité à la carte bleue, je pense qu'il faut être conscient que ce discours, il laisse peser toute la responsabilité sur l'acte d'achat. Et comme tu l'as dit, il faut faire un effort. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, il faut faire un effort financier, de formation, il faut savoir lire les étiquettes, etc. Mais derrière le prix qu'on paye, il y a un choix politique qui est absolument énorme. Certifier ou pas tel type de pesticide, donner des règles pour un affichage environnemental autour du Nutri-Score, quels sont les indicateurs qu'on mobilise ou pas, ça c'est pas les citoyens qui décident, ça c'est des pouvoirs publics, c'est des experts, il y a des lobbies, mais pas que, hein, y a aussi des lobbies, etc., sur le Nutri-Score, etc. Donc ce qu'on veut essayer de dire, c'est, je crois que c'est un message vraiment essentiel du bouquin, je fais un peu de la pub, on est là un peu pour ça, mais demain, une Europe agroécologique, c'est de montrer le rôle essentiel des politiques en tant que politiques qui doivent s'engager. Comme tu l'as dit, on ne change pas d'armée tous les ans. Mais là, il faut changer de cap, et il faut changer de cap vers l'agroécologie. Et par rapport à tes questions très, très, très concrètes, je pense qu'un premier niveau, c'est d'essayer de changer le narratif et changer le discours politique qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est que produire ? Qu'est-ce que c'est que manger ? Qu'est-ce que c'est que protéger les écosystèmes ? Qu'est-ce que c'est que... etc. C'est ce qu'on essaye de faire modestement à travers cette approche de bouquin, parce que cette représentation et cette compréhension qu'on a des enjeux, en fait, elle est première pour les choix, à la fois de nous en tant que citoyens, bien sûr, mais aussi des politiques. Et il y a aussi un autre moyen, il n'y a pas que la carte bleue, il y a aussi le bulletin de vote, qui est un autre moyen d'agir. Alors, on peut y croire plus ou moins, mais c'est quand même des actions citoyennes qui sont tout aussi importantes que la carte bleue. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, mais je pense qu'il faut être conscient que notre carte bleue, elle est très très contrainte aujourd'hui par des tas de choix politiques et qu'il faut réinvestir ce niveau d'action.
Quand on vote, on ne sait pas qui on va avoir à l'agriculture, hein, mon bon monsieur.
Non, mais on peut se douter. Enfin bon, plus ou moins.
Plus ou moins. Eh bien voilà, Nicolas va vous faire passer le micro. On a, on va dire, 25 minutes de temps d'échange avec vous. Voilà, il y a monsieur au fond, Nicolas, qui a une question.
Oui, bonjour. C'est une question pour Monsieur Solos. Vous avez évoqué tout à l'heure, si on augmentait de 0,4% le stockage du, si on augmentait de 0,4% le stockage du carbone dans le sol, on arriverait à stocker tout le carbone émis chaque année. Vous avez dit ça et vous avez. Est-ce que vous pouvez préciser ce point-là? Et par ailleurs, vous avez été assez critique, j'ai eu l'impression, sur le stockage du carbone par la plantation d'arbres. Sachant que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs façons de planter des arbres, on pouvait bien le faire et mal le faire. Est-ce que vous pouvez aussi préciser cette critique, s'il vous plaît?
En fait, le chiffre exact, c'est quand vous émettez du CO2 chaque année, il y a du CO2 qui passe dans l'océan, du CO2 qui passe dans la production primaire, hein, ça augmente la photosynthèse et tout. Et puis il y a un reliquat qui reste dans l'atmosphère et qui va faire de l'effet de serre. Et si vous augmentez de 0,4% la teneur en matière organique du sol chaque année, c'est ce reliquat, c'est l'équivalent de ce reliquat que vous mettez dans le sol. Et vous le mettez dans le sol pour 300 bonnes années. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez entre 200 et 300 ans où vous allez pouvoir continuer à en remettre sans qu'il ressorte complètement. Donc c'est à la fois une solution durable et une solution... Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à produire du CO2. Et le fait de planter des arbres, ben, ce qui fixe le CO2 dans une forêt que vous avez plantée, ce sont les arbres. Donc vous ne pouvez pas retirer les arbres. Et donc vous imposez à vos enfants un aménagement du territoire où il y a vos ordures stockées sous forme d'arbres. Et je ne suis pas sûr que mes enfants ils aient envie d'avoir des forêts là où je les ai plantées. Par contre, si on a restauré les sols et qu'ils ont envie de forêts, ils pourront toujours y foutre des forêts. Hein. Vous y êtes ? C'est ça que je pointe du doigt. Alors, je le fais avec excès, parce que c'est pas mal de replanter des arbres. Il y a beaucoup d'endroits où c'est une très bonne solution, même. Mais je le fais avec excès, parce que ce que je montre, c'est que l'insuffisance de compréhension des mécanismes, de choses aussi simples que ce qu'on piétine tous les jours, fait qu'on pense à des solutions complexes, là où il y a aussi des solutions simples qu'on peut aussi mettre en œuvre.
Si je peux rajouter un mot là-dessus, sur les plantations d'arbres, il y a quand même aussi deux autres problèmes à prendre en compte. Le premier, c'est qu'une plantation d'arbres n'est pas une forêt. Une plantation d'arbres, c'est de l'agriculture. C'est pas un milieu riche en biodiversité, c'est pas un milieu résilient, et donc c'est mieux que rien, mais c'est pas top. Ce qu'il faudrait, c'est permettre aux forêts de se régénérer. Et c'est possible, hein, on peut ouvrir les espaces pour que des forêts se régénèrent. Mais c'est pas un enjeu prioritaire en France. En France, on ne manque pas de forêts aujourd'hui. Mais il y a des endroits où c'est vrai, où c'est effectivement un enjeu. Et par exemple, en Irlande, ils ont tellement coupé les arbres que refaire des forêts en Irlande, ça serait une bonne chose. Mais j'ai un frère qui est chercheur en écologie à l'université de Belfast. Il travaille là-dessus, entre autres. Il ne préconise pas des plantations industrielles, hein, surtout pas. Il faut faire régénérer de la végétation variée et naturelle. Et d'un autre côté, l'autre gros problème, c'est que les forêts, ça brûle. Et donc, toutes les compensations carbone par plantation d'arbres, en fait, je vais être un peu radical, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une totale escroquerie intellectuelle parce que c'est partir du principe que ces arbres sont là pour toujours. Or, ce qui va se passer, ce qui commence à se passer, c'est qu'une grande partie des arbres qu'on replante pour prétendument compenser les émissions de carbone, en réalité, dans les années qui viennent, ça va être aussitôt relibéré et on n'y pourra rien parce que les incendies, quand ils sont là, ils sont là. Et en plus, quand c'est des plantations d'arbres, ça brûle encore plus facilement que les forêts naturelles. Donc un truc qui est aussi fragile ne peut pas être présenté comme une solution, c'est pas possible.
Bonjour, bon merci déjà pour les échanges, c'était très intéressant. Vous n'avez pas trop parlé, je crois, des machines. Et donc moi, ma question, c'est un peu quelle place pour les machines dans une agriculture qui préserve le vivant, pour reprendre un peu le titre. Et notamment, je pense à deux choses. Le fait que l'utilisation de machines, ça oblige d'homogénéiser un peu l'espace pour que les machines puissent passer facilement dans les champs. Et d'autre part, les machines, ça utilise beaucoup de ressources fossiles, donc ça participe quelque part au dérèglement climatique, en plus de faire face au problème à un moment qu'il n'y aura plus d'énergie de ressources fossiles. Du coup, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus, voilà, par rapport à la place des machines?
C'est une sacrée question, et merci de la poser, parce que c'est vrai que la machine et la technologie en général, c'est l'interface entre nos sociétés et l'exploitation du milieu. Donc c'est une question qui est tout à fait essentielle. Alors, je vais parler du point de vue qu'on a essayé de défendre dans le bouquin. D'abord, soyons modestes, parce que je pense que c'est une question qu'on n'a pas épuisée. Là, c'est un peu comme l'élevage. Pour nous, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que la question, c'est pas de se passer complètement des machines, parce qu'il y a la question de la pénibilité du travail, il y a une question de productivité, etc. Notre slogan, d'ailleurs, qu'on a appliqué aussi à l'agro-industrie, enfin à l'industrie, au sens où on l'a dit, la transformation de la préparation de produits alimentaires, c'est « Medium is beautiful ». C'est-à-dire de sortir de schémas où c'est soit les très grandes fermes, où là, clairement, on a tous les excès en matière de machinisme, selon une approche extrêmement descendante, où c'est-à-dire il va y avoir des hubs qui vont concevoir les machines, et ce sera aux écosystèmes de s'adapter au machinisme agricole, et puis non plus de pas tomber dans l'excès inverse en disant c'est le retour systématique à la traction animale, au travail manuel, etc. Donc c'est plutôt un principe de trouver un équilibre qui doit tenir compte à la fois des enjeux de gestion des agro-systèmes, donc avec des exploitations qui sont plutôt de taille moyenne, des enjeux de main d'œuvre. Parce qu'en fait, le machinisme détermine complètement la densité de travail qu'on peut avoir en matière d'agriculture, mais sans négliger les aspects de pénibilité. Et donc, ça renvoie à des enjeux de gouvernance, de qui produit les machines, comment on les répare, comment, etc. Je ne sais pas si vous êtes de l'atelier paysan, mais ça pourrait tout à fait être la philosophie qu'il y a derrière ce groupe de réflexion d'avoir une autonomie technique. Alors, je ne sais pas si nous, on se passe complètement du moteur thermique. Là, ça ouvrirait quelque chose de très fort. Je vais le dire, je pense qu'il y a encore de la place pour du moteur thermique, mais à des échelles beaucoup plus petites que ce qu'on a aujourd'hui.
Avant que Jacques ne prenne la parole, et aussi pouvoir réparer, mon bon monsieur, parce que combien d'agriculteurs aujourd'hui peuvent ouvrir le capot et savoir comment on répare, ce qui n'était pas le cas peut-être de mon père, de ton père, enfin.
Effectivement, mon père, il réparait son tracteur tout seul.
Le mien aussi.
Mais effectivement, c'est quasiment plus possible aujourd'hui, parce qu'avec toute l'électronique qu'il y a dans les machines. Pour repartir sur ce que disait Xavier, il faut séparer plusieurs enjeux dans les machines. Il faut être clair, la mécanisation et la motorisation n'ont pas été motivées historiquement par la volonté d'améliorer les conditions de travail. Ils ont été motivés par la volonté d'augmenter la productivité, c'est-à-dire la production par travailleur, parce que pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, on manquait de bras. Donc on devait libérer des bras pour pouvoir avoir des gens qui font autre chose que de l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on a mécanisé de plus en plus. Et la motorisation au XIXe siècle, il y a des travaux d'historiens là-dessus qui montrent bien, enfin, qui ont retrouvé des textes qui établissent clairement que ça a été une volonté politique pour standardiser, uniformiser l'agriculture dans un but clairement d'industrialisation, de production de masse industrialisée. Et même s'il y a eu plein de bénéfices, hein, moi je pense que la moissonneuse-batteuse, c'est quand même un sacré progrès par rapport à la moisson, à la serpe, hein. Il ne faut pas tout rejeter. Mais il faut bien être conscient que la question des machines va se poser. Enfin, la question de la pénibilité, elle existe, mais il faut vraiment la reposer en tant que telle et pas se tromper du leurre. Enfin, elle sert aujourd'hui de leurre par rapport à autre chose qui est la productivité, c'est-à-dire la production par travailleur. Or, augmenter la productivité quand on manquait de bras, au Moyen-Âge, etc., c'était utile. Ça a permis de construire les pyramides. Les pyramides, c'est bien avant, mais de construire les cathédrales au Moyen-Âge, etc. Il fallait libérer des bras pour ça. Mais par contre, aujourd'hui, libérer des bras, c'est envoyer des gens à Pôle emploi, ou au Brésil, c'est envoyer les gens mourir de faim dans les favelas. Donc ça, je ne vois pas où est le progrès. Donc moi, ça ne me choque pas qu'une agriculture utilise moins de machines, plus de bras, du moment qu'on fait attention aux conditions de travail, du moment qu'on tienne compte de la pénibilité du travail. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de tabou là-dessus. Effectivement, je ne dis pas qu'il faut supprimer les machines, parce qu'il y a un autre enjeu qui est l'évolution par rapport à un modèle, à une pratique à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait invraisemblable et impossible de dire aux agriculteurs français « refaites tout à la main ». Il est évident que toute évolution doit se faire à partir de l'endroit où on en est. Et aujourd'hui, en France, on est très mécanisé. On ne va pas du jour au lendemain ne plus l'être, mais on peut aller vers moins. Et puis, la troisième chose, Xavier l'a évoqué, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que le problème de la surmécanisation, c'est qu'on est dans une logique où il n'y a plus d'autonomie, il n'y a plus de maîtrise, en fait, des machines par les paysans. Parce que l'autonomie, ce n'est pas l'autarcie. Hein. L'autonomie, c'est la notion de maîtriser ses choix. On parle d'autonomie en psychologie aussi. Hein. Quand on aide un enfant à être plus autonome, ce n'est pas pour l'aider à apprendre à vivre tout seul dans les bois. C'est l'aider à être maître de ses choix et vivre de façon épanouie. Ben, un paysan, être plus autonome, c'est qu'il puisse décider vraiment de ce qu'il fait. Et de ce point de vue-là, en matière de machines, moi j'insiste sur l'atelier paysan, si vous ne connaissez pas. C'est un collectif qui fabrique des machines de façon adaptée aux besoins de pratiques bio, etc. Et donc en les adaptant aux besoins concrets des paysans, selon un principe de Creative Commons, c'est des communs, c'est des logiciels libres, quoi. Les plans sont libres, tout le monde peut les reproduire, et même ils font des formations pour apprendre à les fabriquer, à les réparer, etc. Et ça, on est vraiment entre pairs. Et ça, c'est vraiment un super projet. Enfin, ce que fait l'Atelier Paysan, c'est vraiment génial. Et leurs bouquins, ils ne sont pas autour de la table, mais vous pouvez aussi, en plus des nôtres, acheter le bouquin « Reprendre la terre aux machines » de l'Atelier Paysan, rien que le titre, quoi. Reprendre la terre aux machines, c'est toute une profession de foi politique, ça.
Clément, je crois que tu voulais...
Juste un petit point de vigilance, aujourd'hui, il y a un peu l'extension de la mécanisation à outrance, c'est je sais pas comment ça s'appelle, la satellisation de l'agriculture ou la numérisation, digitalisation, donc l'agriculture assistée par satellite, par drone éventuellement, et certains vendent ça un peu comme étant de l'agroécologie. Parce que ça nous permet de faire de l'agriculture de précision avec des traitements à la parcelle, voire même au mètre carré. Et encore une fois, on est dans une dérive un peu techniciste où l'agriculteur ne va pas être du tout maître de son outil de production. Et sans parler des impacts aussi écologiques de l'envoi de ces satellites juste pour cultiver un champ. Et encore une fois, on va encore déconnecter l'agriculteur de son champ en faisant ça. C'est encore une raison de plus pour pas qu'il descende, mettre les mains dans la terre et voir un peu prendre la température de son champ.
Marc-André ?
Alors, il faut voir que le poids des outils agricoles s'est envolé. Et donc, avec ce poids, le coût énergétique de leur transport et de leur fonctionnement, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Une mauvaise raison, c'est la relative accessibilité du carburant. Il y a aussi des raisons de sécurité, c'est que plus l'outil est lourd, moins il risque de se renverser, et ça, par rapport à l'agriculteur, ça a été aussi un peu pensé comme ça, mais ça n'explique pas toute l'augmentation du poids. Aujourd'hui, il y a des méthodes assez intéressantes, au moins sur le gonflage des pneumatiques, qui permettent à la fois de dégonfler les pneumatiques quand on est dans la parcelle pour étaler le pneu et donc compacter moins le sol en répartissant le poids sur de plus grandes surfaces, mais quand on est en déplacement, par contre, de regonfler les pneumatiques et là, de gagner effectivement en consommation. Alors, c'est très marginal, ça. Mais ça appelle plusieurs choses, plusieurs remarques. La première, c'est qu'il faut vraiment avoir des itinéraires techniques qui minimisent l'accès à la parcelle. Et on peut gagner du temps de travail comme ça. Et là, je vais dire un truc qui va peut-être hérisser des gens, ici, je suis désolé, mais moi, je vous dis ce que je vois. La biodynamie, par exemple, m'inquiète beaucoup. Elle a beaucoup de vertus. La biodynamie, c'est une agriculture biologique. Et d'ailleurs, elle a les mêmes performances, en gros. Donc, et moi, j'achète bio, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a beaucoup plus de passages. Parce qu'on pulvérise de la silice biodynamisée, de la corne de vache farcie de bouse resuspendue dans l'eau, laminée. Bon. Et on n'a pas vraiment fait l'inventaire de ceux de ces passages qui sont nécessaires, mais ils coûtent du temps et ils coûtent de l'énergie. Et aujourd'hui, il n'y a pas de place pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut juste dire qu'avant qu'on ait vraiment fait un inventaire sérieux, il y a du gaspillage. Et puis, ça va chercher cette histoire-là jusque dans les choix variétaux. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix des plantes. Aujourd'hui, on a des cépages qui sont arrivés sur le marché, les fameux résidus de première génération, qui ont des résistances durables aux pathogènes, donc des résistances difficiles à contourner. Alors, c'est vrai que c'est des nouveaux cépages, ils ne sont pas forcément géniaux pour le pinard, il y a des réticences dans la profession, mais il y a 4 fois moins de passages pour les pesticides. Et il y a aussi 4 fois moins de pesticides. Sur les raisins. Donc, on voit ici que des choses... Enfin, ça montre à la fois qu'il y a des solutions, même jusque dans le choix variétal, et puis ça montre la complexité du dispositif, parce que quand on aborde un problème, en fait, c'est un écheveau, c'est un mikado. Dès que vous bougez un truc, en fait, tout bouge. Donc, il y a des solutions partout, mais il y a aussi des effets d'adhérence de partout, et c'est vrai que ça peut être vu comme des outils, mais ça complexifie le problème. Il faut changer pas mal de choses pour changer d'agriculture.
Bonjour, merci.
Si vous pouviez vous lever, c'est super, parce que c'est vrai que d'ici, on... Merci madame.
Merci et bravo à tous pour vos ouvrages. J'aurais une question sur l'agriculture de conservation. Je ne sais pas si ça a été évoqué, je suis arrivée un peu en retard, donc je n'ai pas assisté à toute la table ronde. Quelles sont vos opinions? Peut-on amener les agriculteurs qui la pratiquent vers des pratiques de plus en plus biologiques? Ça me chagrine beaucoup de voir l'opposition entre les agriculteurs biologiques et ceux qui pratiquent l'agriculture de conservation, alors que pour moi, il faudrait qu'ils convergent et que... ça me chagrine énormément, ce qui se passe en ce moment, à ce niveau-là.
Vous êtes arrivé en retard, mais nous n'avons pas fait l'inventaire de toutes les agricultures. Jacques a élégamment parlé des agricultures et de pas une agriculture, comme ça nous a évité de rentrer dans toutes les considérations de régénérative, raisonnée, conservation, etc.
Moi, sur la question telle que vous la posez, j'ai un point de vue, je partage votre regret, c'est-à-dire que dans l'agriculture bio, moi j'ai toujours appris à essayer d'utiliser le moins possible labour, forcément un labour le plus superficiel possible, et d'essayer d'aller vers la moindre perturbation possible du sol. Et à une époque, quand je parlais des différentes formes d'évolution en disant on va dans la même direction avec des chemins différents, l'agriculture paysanne, etc. Et je citais l'agriculture de conservation parce qu'effectivement, ça peut aller dans cette direction-là. Il y a un vrai problème politique depuis quelques années, c'est que une partie du mouvement de l'agriculture de conservation, c'est très vrai en France et je m'aperçois que c'est vrai aussi ailleurs dans le monde, s'est fait instrumentaliser par l'agrochimie et on a eu des discours de dire nous ne pouvons pas nous passer du glyphosate et là il y a un problème alors, de fond qu'on peut ouvrir, c'est-à-dire que les dernières études, la dernière synthèse par exemple de Nakiam Kim parue l'an dernier montre qu'il n'y a aucun doute en termes de méta-analyse, il y a plus de micro-organismes plus actifs et plus variés en bio qu'en sans labour. Donc s'il faut vraiment choisir, moi je choisis la bio. Mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas ce choix obligé. Mais le problème, c'est que depuis qu'est venue dans l'agenda politique la question du glyphosate, certains ont utilisé les praticiens du sans labour pour servir de dire « Ah ben non, mais on ne peut pas se passer de glyphosate ». Et en fait, derrière ça, il y a un vrai problème de fond. C'est que si on dit « On ne peut pas se passer de glyphosate », si vraiment ils disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer, ça veut dire qu'ils sont dans une impasse. Et on n'est plus en évolution à ce moment-là, on n'est plus en transition. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est que la bio s'améliore, c'est que l'agriculture de conservation s'améliore, c'est que toutes les pratiques cherchent ce qu'il y a de meilleur chez les autres et continuent à chercher à évoluer. Et quand une commence à dire « nous, on ne peut pas aller plus loin », c'est embêtant. Mais honnêtement, je pense que c'est une instrumentalisation politique et j'espère que ceux qui travaillent sur le sujet sortiront de cette impasse-là. Parce que je pense que c'est une grossière erreur.
Oui, donc il y a une agriculture qui a compris, qui est finalement très anthropocentrique de ce point de vue-là, qui a compris que les molécules chimiques n'étaient pas bonnes, donc qui ne met plus de molécules chimiques dans le système. C'est l'agriculture bio. Elle a une vertu, c'est que notamment elle ne met plus d'engrais minéraux, donc elle met de la matière organique, et de ce point de vue-là, elle augmente le stock de matière organique. Par contre, moi, mes méta-analyses ne me montrent pas un succès nécessairement supérieur à l'agriculture conventionnelle en biomasse microbienne. En diversité, ça va. En biomasse, le labour n'est pas quelque chose que les organismes du sol ont été sélectionnés pour vivre. Là, j'insiste vraiment lourdement là-dessus, parce que c'est tout ce que je sais. Si j'avais une seule chose à crier avant de mourir, ce serait ça. Hein, c'est pas adapté. Mais par contre, pour le stock de matière organique, du coup, il se reconstitue, puisqu'on amène des... Donc, il y a quand même, avec cette démarche qui est une démarche par rapport à la qualité du produit, un effet secondaire sur le sol qui est quand même pas négligeable. L'agriculture sous couvert et les formes d'agriculture qui ne labourent pas et qui donc ont à gérer un couvert qui a poussé et protégé et nourri le sol, c'est très bien, entre deux cultures souhaitées, au moment où on va semer donc la culture cible, eh bien, elles sont nées avec les herbicides. C'est avec le paraquat ou paraquat, je ne sais pas très bien le prononcer ce nom-là, dans les années 50 en Grande-Bretagne, que naît le premier donc herbicide efficace, vraiment efficace, que naît l'agriculture sous couvert. Elle est née dedans. Alors, est-ce qu'elle est obligatoirement liée à ça et est-ce qu'elle est une impasse? Ça a des côtés de prophétie autoréalisatrice, ça. Si on dit que c'est une impasse, on fait demi-tour et on ne creuse pas. Or, moi, je vois des gens qui gèrent. Alors, évidemment, ce n'est peut-être pas possible partout, et peut-être qu'il y a des endroits où c'est des impasses, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas croire au terroir sans penser qu'on ne pouvait pas décliner des solutions de la même façon partout. Moi, je vois des gens, des endroits où on gère avec le gel, tout simplement. Je vois d'autres types de cultures où on gère avec le broutage. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que l'intelligence humaine et l'industrie humaine soient suffisamment aiguisées pour qu'il y ait une autre solution demain. Et moi, ce que j'appelle, c'est une convergence. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a eu instrumentalisation avec le glyphosate. Et en fait, ceux qui vous disent « je fais de l'agriculture sous couvert avec du glyphosate et j'ai plus de vie dans mon sol », ben, moi, tout ce que je sais que j'ai analysé, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas parce que vous êtes dans un ascenseur et que vous appuyez sur le bouton du troisième en partant du rez-de-chaussée et que vous êtes plus haut, qu'il n'y a pas éventuellement un quatrième ou un cinquième étage à aller visiter.
Peut-être une précision sur la vie du sol dans le sous-couvert. Justement, la synthèse de Nakam Kim, qui était parue en 2020, là, et c'est une grosse méta-analyse, donc c'est vraiment costaud. Et en fait, leur conclusion, c'est que ce qui est bénéfique à la vie du sol, c'est la couverture, effectivement. Dès qu'on est sous-couvert, on a une bien meilleure vie du sol. Et ensuite, ils comparent les types de destruction du couvert. Et leur conclusion, c'est que le glyphosate est le plus mauvais pour la vie du sol, en fait. Et donc, voilà. Et donc, je pense qu'on est d'accord. Allons vers ça, mais sans glyphosate.
Dernière question, puisqu'après, on doit libérer aussi l'espace et puis un temps de dédicace. Merci.
D'abord, merci beaucoup, parce que c'est vraiment passionnant et très, vraiment très, très, très intéressant. Et puis, merci pour tout ce que vous faites aussi.
Le micro,
c'est mieux comme ça. Et en fait, moi, je voulais, je travaille au ministère de l'Environnement, je travaille sur des questions de préservation de sol, enfin, de préservation d'espace naturel, plutôt, humide, notamment. Donc, tout ce que vous avez dit sur l'eau, justement, sur la captation de carbone, etc., toute l'importance de préserver tout ça, ça me parle beaucoup. Et malheureusement, ce sont des choses qui sont très mal connues. Je pense que la vie du sol, le cycle de l'eau, etc., bon, c'est quand même des choses qui gagneraient à être partagées. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est vraiment des choses que, voilà, il faut écrire.
Des livres, déjà, c'est pas mal.
Il faut des livres.
Des conférences gratuites.
C'est déjà très bien, mais bon, manifestement, encore aujourd'hui, ce n'est pas bien connu. Alors après, bien sûr, je partage, mais ça, je le dis en passant, mais c'est vrai que la difficulté aussi d'entraîner le ministère de l'Agriculture aussi sur ces questions, enfin, d'avoir du soutien. Parce qu'effectivement, il faut un vaste mouvement pour essayer de bouger tout ça. Et bon, pour l'instant, ça se dessine assez moyennement. C'était juste pour deux choses. En fait, il me semble que c'est intéressant aussi d'embarquer peut-être d'une part les questions justement de changement climatique. Et vous aviez parlé, vous aviez évoqué les solutions fondées sur la nature, sans les nommer comme ça, mais c'est un petit peu l'idée. Et qui n'ont pas été, elles n'ont pas été extrêmement évoquées quand même à la COP26 à Glasgow. Et en fait, ça fait partie aussi des grandes solutions et peut-être des grands sujets à mettre sur la table prochainement sur toutes ces questions de changement climatique et de préserver les sols, leur bonne fonctionnalité, parce qu'en fait on a des sols donc, bien sûr qui ne fonctionnent pas forcément et qui deviennent presque imperméables à l'eau. En fait, là on a vraiment des grands soucis aussi. Et par ailleurs, là c'était une question, pour le coup c'était aussi, apparemment il y a un grand chantier sur les sols qui a démarré, qui a démarré au niveau de l'Union européenne. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà agrippé par peut-être certains groupes de pression? Je ne sais pas. Ou est-ce que, voilà, je voulais avoir votre avis sur le fait, sur savoir qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de ce travail-là, peut-être pour aller dans le sens que je crois qu'on souhaite tous ici. Merci.
Bon, plus personne ne veut vous parler, je suis désolée. Non, je plaisante.
Je ne le connais pas bien et j'avoue que je n'ai pas suivi le détail du dossier, mais il y a un gros projet donc, pour 2050 qui vise à avoir en Europe, donc c'est un projet de l'Union européenne, qui vise à avoir, je crois, 30% de sol en bon état. Alors vous allez me dire, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ambitieux. Et le vrai problème de l'Europe, ce n'est pas que les gens n'y font pas leur travail. C'est la transposition en droit national. Très souvent, les lobbies se cachent plutôt à ce moment-là, parce que c'est plus facile de travailler sur des proies séparées. Hein ? Diviser pour régner. Et c'est souvent pas au niveau européen que ça se passe mal. Moi, ce que j'ai lu de ce plan, donc là, sur les sols, m'a paru vraiment... Enfin, moi, je me sentais chez moi. Mais je sais très bien, pour être YF de formation, que le diable se cache dans la transposition en droit national.
En tout cas, moi non plus, je n'ai pas spécialement suivi ce travail. Je pense que, en tout cas, dans les débats politiques, on évoquait la COP26. Je pense qu'il y a un enjeu très très fort et très vigilant sur la manière de prendre en compte les enjeux climatiques au sein de l'agriculture. Et là, il y a une tentation très très forte qui est double. Un, qui est d'une part par la production de biomasse à très large échelle pour résoudre des problèmes. Alors on fait d'ailleurs un amalgame entre les problèmes énergétiques et les problèmes de changement climatique et d'émissions, qui sont deux problématiques qui sont un petit peu différentes. Et je pense très clairement à la méthanisation industrielle. Mais ça pourrait être aussi sur une logique de plantation d'arbres de type industriel. Donc il y a un risque très très fort de transposer un agenda climatique qui se réduit uniquement à des calculs d'émissions, d'ailleurs dont on ne sait pas grand-chose au niveau de ce qui se passe dans les sols, et donc d'optimiser une forme d'agriculture très productive, industrielle, au nom du climat, alors que le rapport du GIEC de 2019 nous a rappelé que de toute manière, même du point de vue des climatologues, c'est une impasse, c'est une connerie, parce que de toute manière, on va tellement faire souffrir les écosystèmes en mettant en œuvre ces politiques qu'on va avoir des effets délétères. Et donc, voilà, cette question d'être très vigilant sur le fait que l'agenda climatique ne doit pas nous imposer une seule vision très réductrice en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça me semble un message très important et, pour le dire, c'est un risque très très fort sur l'agriculture.
J'ajouterais que sur les solutions, enfin, solutions basées sur la nature, comme on dit, la formule est bizarre et elle sonne un peu mieux en anglais, mais il y a aujourd'hui une levée de bouclier des mouvements autochtones et de la petite paysannerie à travers le monde, parce que globalement, c'est la plupart des projets qui ressortissent à cette définition sont des projets pilotés par les pays du Nord dans les pays du Sud, avec accaparement des terres, avec expropriation. Et aujourd'hui, je pense pas qu'ils soient très favorables à ça. Enfin, les mouvements avec lesquels moi je travaille, via Campesina, Grain, enfin des réseaux internationaux de défense des communautés rurales et des communautés autochtones, sont très remontés contre les solutions basées sur la nature, et qui rejoint aussi tout ce que vient de dire Xavier. Et une dernière, juste un mot sur le. Alors, ce dont vous parlez sur le sol, je ne sais pas si c'est la relance de la directive sol, si c'est ça, parce que j'ai cru entendre qu'elle allait être relancée, donc c'est qu'elle est relancée. C'est un serpent de mer. Moi, je suis plutôt confiant. Hein. Si la directive sort, si elle aboutit, elle sera plutôt bonne, je pense, parce que il y a eu plein de travaux de l'Europe récemment, des directives sur ce genre de sujet qui sont plutôt bonnes. Et je rejoins, le problème, c'est l'application. Et puis là, dans son cas, c'est même carrément, elle dérange tellement que il y a un très puissant lobbying en amont. Il y a 20 ans, elle a été, c'est un chantier qui a été ouvert il y a 20 ans et qui a été enterré entre-temps. Enterré, c'est pas mal pour une directive sol. Et bon, alors je sais, effectivement, si elle ressort, regardons ce qui se passe, mais aidons-la à ressortir. Je pense que ça serait bien. Beaucoup de réseaux demandaient depuis des années à ce qu'elle soit relancée. Donc,
Juste un petit rectificatif à ma gauche et après je rends le micro.
Des chiffres sérieux, c'est le programme Caring for Soil is Caring for Life. Prendre soin du sol, c'est prendre soin de la vie. Et c'est, j'ai complètement merdé sur les chiffres, c'est 75%, c'est quand même, bon, des sols en bonne santé. En 2030, la bonne santé étant la qualité de la nourriture et la qualité de la vie des hommes qui habitent là.
Merci pour ce rectificatif. Merci, messieurs, de ce débat et cet échange passionnant. Merci à tous. Merci beaucoup.